Les rendez-vous de la LICRA. Cette fois-ci, le thème va peut-être vous paraître étrange. On va parler des enfants de la Creuse. Qu'est-ce les enfants de la Creuse? Eh bien, ce sont des enfants réunionnais qui, entre les années 60 et jusqu'à 1984, ont été adoptés et parfois enlevés de force à leur île pour venir repeupler les territoires non seulement de la Creuse, mais de 80 départements français au moment où il y avait, on va dire, une crise de population. Alors on va écouter des témoignages de plusieurs intervenants de la région Nouvelle-Aquitaine, une enfant de la Creuse elle-même qui va témoigner, et puis la photographe qui est à l'initiative de l'exposition qui est en ce moment visible tout l'été au Conseil Régional de Limoges. Donc en premier intervenant, Guillaume Gonin, représentant au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine pour le toujours président Alain Rousset, de tout ce qui concerne égalité et discrimination. Il nous explique dans quel cadre et dans quel motif, dans quel but s'est déroulée l'organisation de cette exposition, pour le moment, au Conseil Régional de Limoges.
Bonjour Monsieur Gonin.
Bonjour.
Vous êtes, on va dire, responsable ou représentant de ce qui concerne l'égalité et la discrimination au Conseil Régional d'Aquitaine. Je ne sais pas si j'intitule bien votre fonction.
Alors, vous intitulez bien ma fonction, simplement à préciser que ce n'est pas dans le cadre de... Je ne suis pas élu, je suis simplement au cabinet du président de la région, donc au cabinet du président de la région, d'Alain Rousset. Je m'occupe en effet de ces questions-là.
Je vous contacte parce que il y a une très belle exposition, enfin elle est encore en cours, mais elle se termine, sur les enfants de la Creuse. Je les nomme comme ça parce que c'est souvent l'intitulé également qu'on leur donne. Donc l'histoire de ces enfants réunionnais... dont certains, on peut dire qu'ils ont été déplacés, certains carrément enlevés, et qui ont atterri dans nos territoires ruraux, alors beaucoup dans la Creuse, mais dans le Limousin en général, et même quelquefois jusqu'en Bretagne, etc. Et donc la région, j'ai bien compris, a impulsé cette exposition.
Absolument. En fait, cette exposition, qui à la base devait se maintenir un mois à Limoges et qui va durer tout l'été, vos auditeurs auront l'occasion de pouvoir s'y rendre jusqu'à la fin du mois d'août dans cette exposition que nous avons prolongée. Il faut savoir qu'elle sera à vocation itinérante aussi. Elle ira ensuite à Bordeaux, à Poitiers, dans les différents halls de l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine. Et la volonté après du président Alain Rousset, c'est que cette exposition puisse aller dans les lycées qui seraient volontaires pour l'accueillir. Vu que l'histoire tragique des enfants de la Creuse que vous avez rappelé a fait que bon nombre d'entre eux, pas tous, sont passés par le foyer d'accueil de Guéret avant ensuite d'être envoyés dans des familles d'accueil à travers la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à travers le sud-ouest de la France en général et la France en général. Et un certain nombre d'entre eux, toutefois, je crois qu'on doit être environ à 10% d'entre eux, sont restés en Creuse. Du moins en tout cas au plus fort de leur arrivée. Oui. Et beaucoup d'entre eux sont allés dans des lycées notamment agricoles. Et donc on aimerait beaucoup à la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est la volonté du président Rousset, que ces lycées agricoles puissent du coup travailler avec nous sur ces questions-là. On a aussi l'ambition à la région, c'est porté par le vice-président éducation Jean-Louis Nabrini, d'associer les proviseurs, d'associer évidemment la rectrice aussi de Limoges, dans un projet pédagogique qui pourrait faire que des profs, notamment d'histoire-géo, puissent s'emparer de ce sujet et réfléchir à, peut-être sous la forme d'un projet, quelque chose d'annexe qui vient à côté du programme, qui est évidemment quelque chose qui appartient à l'éducation nationale, mais qui pourrait venir sous la forme de projet mémoriel ou historique, faire venir par exemple des enfants d'Île-la-Creuse dans les classes pour qu'ils puissent témoigner de leur histoire, et que de cette manière-là, à travers l'exposition, à travers ces interventions dans les lycées qui ont été concernés, on puisse être vraiment les passeurs de cette histoire-là et surtout s'en faire la faire nôtre, parce que c'est une histoire qui est malheureusement méconnue, et je suis heureux que des gens tels que vous et des émissions telles que la vôtre s'y intéressent, parce que je n'en reviens pas moi personnellement du nombre de personnes à qui je dis vous avez entendu parler des enfants de la Creuse et qui me regardent avec des grands yeux, non jamais, alors que c'est quelque chose qui devrait être absolument connu de tous. C'est aujourd'hui 2050 enfants qui ont été répertoriés par la commission historique, qui ont été, vous avez raison de le dire, déportés, déracinés, arrachés à leur famille. Certains ont été enlevés dans la rue, littéralement, par les services de l'État à l'époque, pour du coup cette... Alors, quelque chose qui partait certainement d'une analyse rationnelle, qui dans le contexte de l'époque paraissait peut-être être une bonne idée pour certains, mais qui aujourd'hui, avec le recul, ne tient absolument pas la distance. Et on peut parler, à mon sens, d'une faute morale de l'État. C'est ce qui a été reconnu par l'Assemblée nationale grâce à la résolution mémorielle portée par Erika Baredge en 2014. D'accord. Et certains vont même plus loin en parlant de scandale de l'État. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ces enfants-là ont besoin d'une reconnaissance. Ils sont devenus des parents, des grands-parents. Ils ont besoin d'une reconnaissance parce que pendant l'essentiel de leur vie. Ils n'ont pas eu de statut, ils n'existaient pas, ils n'avaient pas d'origine, aucune réponse à leurs questions. Et ces réponses-là commencent à arriver aujourd'hui, mais un peu tard. Et la Nouvelle-Aquitaine essaye en tout cas d'y contribuer dans toute sa mesure.
Juste pour rappeler ce que vous évoquiez, cette décision, on va dire, administrative qui a été prise, qui est dans un contexte, alors on peut dire économique, d'assez grande pauvreté à La Réunion, de manque de main-d'œuvre ou de besoin de repeuplement de certains départements, certaines régions de France. Peut-être même qu'on a cru à de bonnes intentions, mais on a complètement oublié l'aspect humain des choses.
Absolument, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un exemple typique de ce qui peut se passer quand la machine administrative et l'aspect technique oublient l'humain en fait, et oublient les femmes et les hommes qui sont derrière. Et ici, c'est encore plus tragique et c'est encore plus révoltant, c'est qu'on parle d'enfants. On parle d'enfants, mais on parle aussi de leurs parents, à qui on a très souvent menti. Vous parliez du grand pauvreté, vous avez raison. Un certain nombre d'entre eux étaient illettrés, et quand ils cédaient les droits en fait de leur enfant, on leur faisait signer les documents avec l'empreinte digitale, vu qu'ils ne pouvaient pas lire les documents. On leur disait, on va envoyer les enfants à la métropole. Pour eux, la métropole, c'était New York pour nous aujourd'hui, quoi. C'est un mirage fantastique. Ils iront à l'école, ils vont devenir médecins, ils vous enverront plein d'argent. Vous allez les revoir souvent, parce que la promesse qui était faite, c'était qu'ils allaient les revoir. C'était pas qu'ils les abandonnaient totalement. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où certains de ces enfants, toujours aujourd'hui, ne connaissent pas le nom de leurs parents, ne connaissent pas leurs parents, ne connaissent pas leur nom biologique, leur nom de naissance. Ont plusieurs actes de naissance aujourd'hui encore en 2021. Donc c'est une aberration incroyable qu'il faut corriger pour valoriser aussi, je pense, le travail qui a été fait par les associations et aussi peut-être alerter sur la situation toujours actuelle de la condition des mineurs isolés. Des enfants de l'ASE, du travail de l'ASE. On est évidemment très loin de ce qui s'était passé à l'époque, mais la volonté aussi des associations qui travaillent sur ça, et notamment la FED, est d'avoir un regard plutôt optimiste sur la chose, parce que on a tendance à les enfermer dans cette histoire qui est tragique, dans un côté misérabiliste, victimaire, alors qu'aujourd'hui, ce sont des gens pleins de vie, qui sont lors de l'inauguration d'exposition photo à Limoges en présence de François Hollande et du président Rousset, il y avait énormément d'émotions, mais beaucoup de dignité chez eux aussi. Et la soirée avançant, une grande joie de vivre aussi, du fait de se retrouver, d'être ensemble et de juste qu'on les regarde comme des citoyens à part entière et qu'on reconnaisse aussi la spécificité de leur histoire.
Je me permets juste une petite remarque. Les photos sont magnifiques. Ce sont des grands formats, il y a beaucoup d'émotions ressenties sur les photos. Juste peut-être une impression, parce que c'était les circonstances, le hall du conseil régional. J'aurais voulu avoir presque plus de photos, peut-être ce sera le cas. Parce que j'imagine qu'il y aura peut-être un livre ou que la photographe va éditer quelque chose, parce que c'est tellement touchant qu'on a envie d'en avoir plus. Et puis ce que je trouve vraiment intéressant, je me permets de terminer là-dessus, c'est que vous ayez pris la décision, enfin la région, d'aller vers les jeunes, vers les lycées. Alors, mais je voudrais savoir, par exemple, parce que je suis enseignant, voilà, je ne vous le cache pas, comment, alors là il se trouve que je vous ai en contact, comment les enseignants vont pouvoir être informés, comment on va savoir, parce que très souvent, il y a plein de bonnes initiatives, mais arrivés sur le terrain, les enseignants n'ont pas toujours l'info adéquate.
Je comprends. Alors, pour répondre à vos plusieurs questions, la première, c'est que je partage votre impression, cette envie d'en voir plus et d'en savoir plus et d'en ressortir plus. Vous pouvez aller sur le site de la photographe Corinne Rosotte. Elle a l'ensemble de ses photos, qui sont publiées en ligne sur son site. Corinne Rosotte, R-O-Z-O-T-E.
D'accord.
Et vous aurez l'ensemble des photos. Nous réfléchissons à des manières de valoriser ensuite cette exposition. Outre son itinérance dont nous avons parlé, la question d'une publication ou d'un livre se posera peut-être en temps et en heure après qu'elle ait vécu. Mais en tout cas, sachez que c'est évidemment des questions que l'on se pose aujourd'hui. Pour répondre à votre question sur l'enseignement, il faut savoir que quand nous avons lancé ce projet, quand le président Alain Rousset s'est emparé du dossier et a été très touché par cette histoire et a donné son accord pour cette exposition photo qu'il a voulu ambitieuse, nous étions il y a environ un an et demi, voire deux ans. Nous l'avons mis sur pied, nous avons travaillé avec Corinne Anzot, la photographe, nous avons travaillé avec l'association de la FED, qui sont les enfants, la Fédération des enfants déracinés des Drôme. Nous avons travaillé ensemble et nous avions prévu la grande inauguration, fruit de ce travail, fin mars, tout début avril de l'année dernière.
Ah oui, en plein voilà. Covid, début donc, du Covid, oui.
Voilà, nous avions notre vice-président en charge de l'éducation, Jean-Louis Nambrini, avait adressé un courrier à nos trois recteurs à la région, un courrier à Jean-Michel Blanquer, et nous avions initié cette démarche, nous étions dans les prémices, les premiers instants de cette démarche, pour justement réfléchir à comment est-ce que ça pouvait se traduire d'un point de vue pédagogique dans les lycées, qui étaient volontaires. Ensuite, la situation sanitaire, nous avons vécu ce premier confinement, nous avons décalé notre exposition et notre inauguration quelques mois plus tard, en plein pendant le deuxième confinement, nous l'avons redécalé une troisième fois, pendant le troisième confinement, et donc, si vous voulez, l'inauguration qui a eu lieu le 9 juin dernier, donc il y a quelques jours à peine, était la quatrième reprogrammation, et moi, pour tout vous dire, je désespérais, j'étais un crève-cœur à chaque fois, et je me disais, mais on va jamais l'avoir. Et donc, aujourd'hui, il se trouve qu'on est en période électorale, entre-temps, du fait de ce décalage, alors qu'à la base, c'était quelque chose qui devait être totalement apolitique, et ça l'est d'ailleurs toujours pour moi, et qui dépassait bien sûr le cadre électoral. Donc, on est aujourd'hui pieds et poings liés par la réserve électorale qui est naturelle, qui est normale, notamment vis-à-vis de l'éducation nationale et vis-à-vis des fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire cette relance. L'élection passée, si les électeurs le veulent bien, Alain Rousset sera peut-être toujours en place, et si c'est le cas, peut-être que j'aurai toujours la chance de travailler avec lui et d'être son conseiller à son cabinet, et si c'est le cas, évidemment que du coup nous pourrions reprendre le fil de nos démarches et nos échanges là où nous les avons laissés avant la situation sanitaire et avant les élections.
Alors on peut peut-être oser espérer, je vais pas faire un commentaire politicien, que même s'il y avait un changement à la région sur un sujet comme ça qui est maintenant historique, on peut considérer apolitique, j'espère qu'il y aurait une poursuite du projet, quoi qu'il en soit. Parce que...
C'est notre espoir aussi, que quoi qu'il arrive. Mais vous savez, moi j'ai travaillé pour Erika Barège au ministère des Outre-mer. Oui. Nous avons, en fait, c'est elle qui donc avait porté cette résolution mémorielle. Elle est députée originaire de La Réunion, de Saint-Denis de La Réunion. D'accord. Elle est élue de Saint-Denis de La Réunion. Aujourd'hui, elle est maire là-bas. Et c'était sous l'égide du ministère des Outre-mer, où elle a été nommée ensuite, que se tenait la commission historique et scientifique qui devait rétablir la vérité sur ces faits. Et le rendu du rapport, qui était un travail de longue haleine mené par l'historien Philippe Vital et d'autres historiens autour de lui et des sociologues, était prévu pour 2018. Nous étions assez lucides sur la situation politique de François Hollande et de notre majorité, notre gouvernement socialiste à l'époque, et nous nous doutions bien qu'en 2018, nous ne serions plus là pour voir recueillir ce rapport. Donc, ce que nous avions décidé avec Erika Barège, enfin, ce que Erika Barège avait impulsé et décidé à l'époque, et que nous étions échinés à mettre en place, c'était un rapport de mi-parcours à la fin de l'hiver 2017, quelques mois avant les élections présidentielles, pour prendre quelques mesures, en espérant que ça impulse justement pour la suite, en gardant un esprit voilà qui était tourné vers la mémoire, vers un semblant de réparation, vers l'acceptation de cette histoire, en se disant que si on prenait des mesures avant qu'on parte, derrière, le futur ministre ou la future ministre de l'Outre-mer, qui ne sera après Erika Barège, reprendrait le flambeau. Nous avions proposé et fait des remboursements de billets d'avion à La Réunion pour ceux d'entre eux qui n'étaient encore jamais allés à La Réunion. Nous avons proposé un suivi psychologique. Nous avons proposé une aide juridique aussi pour ces enfants, pour qu'ils puissent accéder à leur dossier. Ça a été mis en place en février 2007 par Erika Barège, en espérant qu'il y ait plus derrière. Et malheureusement, depuis ce jour-là, absolument rien ne s'est passé au ministère de l'Outre-mer ou du côté de l'État. C'est en stand-by. Donc, on n'est jamais sûr de rien. C'est pas une consigne de vote que je...
Peut-être de voilà. Participer à la relance de cette idée, en tout cas.
Nous l'espérons. En tout cas, la région Nouvelle-Aquitaine, à travers cette exposition, peut-être un jour à travers d'autres mesures, en tout cas, essaye de faire toute la lumière sur cette histoire. Et le message d'Alain Rousset, qui était aussi celui de François Hollande, qui a fait un très beau discours, je ne sais pas si vous avez pu voir les images lors de l'inauguration le 9 juin, était clairement le suivant, qui est Vous êtes les enfants de la région, vous êtes ici chez vous, et on vous reconnaît pleinement dans notre histoire.
Je me permets de rebondir, alors je sais que vous n'êtes pas un politique, mais sur le mot de réparation que vous avez prononcé, alors à la différence des périodes de l'esclavage, etc., qui sont évidemment proscrites, terminées, et où il n'y a pas de survivants, là, on a des enfants, enfin, qui sont évidemment des adultes maintenant, qui sont toujours vivants, donc la réparation pourrait être directe. Alors je ne sais pas si elle serait sonnante et trébuchante, vous avez parlé de ces billets d'avion, je pense que c'est hyper important. Effectivement, que certains aient pu retourner.
Je pense que malheureusement, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux, rien ne pourra être réparé. C'est-à-dire que le mal est fait. Oui, le mal est tellement impensable.
C'est un mot inapproprié.
Oui, et j'aurais même d'ailleurs pas dû l'employer. J'ai du mal à rester mesurer quand je parle de sujet qui me tient à cœur. C'est très dur de trouver les bons mots, forcément. Mais je veux dire, quand on parle de certaines personnes la plupart des personnes, même d'ailleurs, à qui on a tout simplement volé leur enfance, arraché leur enfance, on leur a volé leurs frères et sœurs, en les amenant en France, en les amenant dans les territoires hexagonaux français. Ils ont été séparés de leurs frères et sœurs avec qui ils étaient pourtant arrivés en avion, et ils ont appris pour certains d'entre eux que 20 ans après qu'ils avaient des frères et sœurs à 30 km de chez eux dans une autre ferme. Enfin, certains ont plus jamais pu ou n'ont tout simplement jamais vu leurs parents parce qu'ils sont partis à 6 mois ou à 3 mois, et ils n'ont jamais connu leurs parents biologiques, ils pourront jamais tenir leur mère dans leurs bras. Donc, c'est absurde de parler de réparation. Je suis le premier à l'avoir fait parce que on a du mal à trouver les mots. Donc, la réparation n'existera pas, en fait, parce que ce qui s'est passé est trop dur, trop violent, trop triste, trop dramatique pour pouvoir être réparé. Donc, ce que nous, on peut faire, nous, pouvoir public, donc, y compris État, c'est comment on les accompagne aujourd'hui le mieux possible et comment est-ce qu'on leur permet d'accéder à leur identité, comment est-ce qu'on leur permet d'accéder à leurs racines, comment on leur permet d'accéder à la vérité qui est la base en fait de laquelle on doit partir derrière pour arriver à se construire, et comment est-ce qu'on arrive à partager cette histoire. C'est ce qu'on peut faire de mieux, à mon sens, au niveau pouvoir public, pour que cette histoire qui est à la base tragique, l'épilogue de cette histoire ne tombe pas dans l'oubli, qui serait le plus tragique de tous.
Et puis que ça donne des leçons pour l'avenir. Je sais plus le nom, mais
exactement.
Je vais évoquer un pas de côté, mais il y a quelques années, on a eu dans les médias l'histoire d'une association de gens qui allaient chercher des enfants en Afrique. Bon, après ça, il y a eu un procès. Alors, c'était peut-être pareil, pétri de bonnes intentions, avec des parents qui croyaient vraiment adopter des enfants libres de toute famille. Et puis en fait, il s'est avéré qu'on était presque dans un processus du même ordre, où est-ce que les familles étaient vraiment conscientes que les enfants partaient définitivement. Bon, plus des relations diplomatiques compliquées derrière ça. Il faut faire très attention, même en termes d'adoption, finalement, c'est
absolument
une alerte.
Absolument. Mais après, il faut aussi se dire que ce qui nous paraît odieux, monstrueux, et vraiment d'un autre âge aujourd'hui, à l'époque, pour une majorité silencieuse de fonctionnaires, voire la quasi-totalité, paraissait normal, puisque aucun fonctionnaire de l'État n'a dénoncé cela. Ceux qui étaient en charge de mettre en ordre les directives de Paris à La Réunion l'ont fait avec zèle, apparemment. Peut-être qu'il y a des héros. Oui, c'est entre 1961 et 1984.
Ah oui, ça a quand même duré sur.
C'est hier, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que on parle pas de. C'est comme moi je m'intéresse beaucoup aux États-Unis, quand on parle des droits civiques et de la ségrégation qui était un vrai apartheid dans le sud des États-Unis, dans beaucoup de d'États américains. Oui. On a l'impression qu'on parle de quelque chose qui a lieu il y a un ou deux siècles, alors que les gens sont encore vivants aujourd'hui et s'en rappellent, en fait. Donc c'est la même chose. Ces enfants sont devenus des adultes, sont des êtres vivants, vibrants et passionnants et hyper intéressants, et d'une grande sensibilité, et qui ont une grande dignité aussi. Et c'est à nous de.
Les jeunes dans les lycées ou des collèges peuvent rencontrer ces personnes en chair et en os, j'allais dire. C'était très très important que vous puissiez peut-être favoriser cette
rencontre. Absolument.
Parce qu'il n'y a rien de tel que pour la transmission émotion, évidemment, aussi.
Absolument. En attendant que l'État se saisisse du dossier et se montre à la hauteur du mal qui a été fait, et surtout de sa responsabilité et de son histoire, je suis heureux, en tout cas, de constater que des journalistes tels que vous, des auteurs de BD, Je pense à une revue, à une jolie enquête qui a été réalisée dans le cadre de la revue Destinée, par exemple, qui a été consacrée aux enfants de la Creuse. Mais il y a aussi une BD en part entière qui est sortie, dont je ne me rappelle malheureusement plus du titre. Merci, c'est gentil de combler mes lacunes. Et un très beau roman de Jean-François Samelong qui s'appelle Un soleil en exil, qui résume en une histoire, l'histoire de beaucoup des enfants de la Creuse. Donc je suis content de voir que là où le pouvoir politique a peut-être
Fait des choix.
a laissé tomber le relais, de voir que ce sont les journalistes, les auteurs, les artistes qui commencent à se saisir un peu de cette histoire. Donc la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine en tant que pouvoir public essaye à la hauteur de ses moyens et de contribuer dans la mesure du possible à faire connaître cette histoire et à accompagner au mieux ses enfants. Et j'espère que ce sera un relais qui sera pris par de plus en plus de monde.
Est-ce qu'on a des statistiques sur les enfants encore vivants et sur ceux qui vivraient toujours sur nos territoires d'Aquitaine? Est-ce qu'on sait s'ils sont restés dans la région, si certains sont retournés vivre à La Réunion? Est-ce qu'on a des chiffres peut-être là-dessus?
Alors, on a quelques chiffres. Je ne les connais pas par cœur de tête. Je pense que si vous référez au rapport de la commission historique de Philippe Vital, en annexe, il doit y avoir ces chiffres-là. Mais quoique je ne suis pas sûr parce qu'il y a les chiffres de où les enfants ont été envoyés quand ils sont arrivés, mais je pense pas qu'il y ait des chiffres qui aient été faits de manière complète pour un inventaire qui a été fait aujourd'hui d'où ils vivent. Par contre, j'espère que vous aurez l'occasion de parler à Valérie Intenson, qui est la porte-parole de la FED, l'association dont je vous ai parlé, et qui pourra, elle, vous dire, en tout cas au niveau de son association, qui regroupe plusieurs centaines d'enfants de la Creuse, où ils vivent aujourd'hui, parler un peu de leurs histoires de vie, et pourra vous peindre un tableau beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant que celui que
Non,
je suis capable de faire.
je vous rassure, c'était très intéressant, mais effectivement, si on peut avoir contact avec certains et qu'ils témoignent directement, ça sera évidemment passionnant et édifiant, voilà, tout simplement. Écoutez-moi, je vous remercie beaucoup, je sais que je dois vous libérer, mais...
Merci à vous.
Les enfants de la Creuse, donc un autre témoignage, cette fois-ci la photographe Corinne Rosotte, photographe, journaliste, documentariste, qui a parcouru bien des territoires dans le monde, qui récemment, avant le Covid, était en Chine pour faire des reportages autour des plages, vous verrez, c'est assez amusant. Miala, elle s'est consacrée aux enfants de la Creuse parce qu'un jour elle a découvert que cette histoire existait, alors que pourtant elle-même d'origine réunionnaise n'en avait pas entendu parler. Donc un témoignage qui est fort, posé et qui, je crois, vous expliquera bien le fond des choses.
Bonjour Corinne Rosotte.
Bonjour.
Vous êtes photographe.
Je suis photographe, documentaire et photojournaliste.
Très bien. Alors, vous avez commis, si je puis dire, mais c'est dans le bon sens du terme, de magnifiques photos que nous pouvons voir en ce moment dans le hall du Conseil régional de Limoges, qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez traité le sujet de ce qu'on appelle les enfants de la Creuse. Je ne sais pas si le
Oui.
terme est correct. En tous les cas, le sujet de ces enfants qui ont été abandonnés, attrapés, enlevés, je ne sais pas que dire.
Oui,
J'aimerais
voler,
savoir
voler, voler.
comment ça vous est venu, parce que vraiment ce que vous avez fait en photo est magnifique, je peux vous le dire, est très émouvant.
Écoutez, j'ai moi-même des origines réunionnaises, et puis un jour de 2017, j'ai entendu parler de cette histoire à la radio. Et là, je me suis dit bah, que c'était l'occasion pour moi d'essayer avec l'image de faire connaître cette histoire au plus grand nombre, quoi,
Ça veut dire que
au grand public.
jusqu'en 2017, vous-même étiez, entre guillemets, ignorant de cette histoire?
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
D'accord. Alors, vous avez des origines réunionnaises, donc ça démontre quand même que ça a été assez passé sous silence, on va dire.
Exactement, exactement, ouais, exactement.
Et alors, comment vous vous êtes pris, alors, non seulement pour faire ces photos, pour rencontrer les gens, pour aboutir à une exposition au Conseil régional Est-ce que vous pouvez nous
Alors,
raconter les premières étapes?
moi, j'ai contacté en premier lieu la Fédération des enfants déracinés des régions et territoires d'outre-mer.
D'accord.
Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai pu contacter des personnes qui font partie de ce dispositif d'exil forcé et qui donc ont accepté de se faire photographier, parce que ce qui est assez édifiant, c'est que ça concerne plus de 2000 personnes, enfin 2000 enfants dans les années 60 jusqu'au début des années 80, et que encore aujourd'hui, actuellement, en 2021, il y a peut-être moins de 500 personnes qui sont identifiées, qui se sont manifestées ou qui sont identifiées comme telles, quoi. C'est-à-dire que soit il y a un certain nombre de personnes qui sont décédées de maladies, parce que ça voilà, il y a des conséquences psychologiques et physiques énormes d'avoir été déraciné, exilé comme ça, et tout ce mensonge autour de cette histoire, voilà. Et puis donc il y a des personnes qui sont décédées, qui se sont suicidées, qui sont peut-être en hôpital psychiatrique. Il y en a d'autres qui veulent pas le faire savoir, quoi. Et puis il y en a d'autres qui ne le savent pas, quoi. Qui savent qu'ils ont été adoptés, qu'ils ont eu des parents que eux sont noirs, ils ont des parents blancs, ils pensent qu'ils sont orphelins alors que leurs parents étaient encore, ils sont peut-être encore, leurs parents biologiques sont toujours peut-être vivants. À la Réunion.
Ah oui, parce que quand vous avez dit identifié, moi je pensais identifié entre guillemets par peut-être vous, par les services sociaux, etc. Il y a des gens qui eux-mêmes ne savent pas qui font partie.
Voilà, parce qu'aujourd'hui il y a une liste qui est établie de manière officielle, puisque ça a été déposé aux archives nationales il y a peu de temps, de ces personnes, de ces plus de 2000 enfants exilés à l'époque. Mais pour autant, oui, comme je vous dis, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas qu'ils font partie de cet exil forcé, quoi. Dans les photographies là qu'on peut voir à Limoges, il y a par exemple une personne, on voit une photo, la photo de Dan David qui a été exilée en Bretagne. Oui. Et elle a été adoptée par une famille tout à fait aimante d'ailleurs. Mais ceci dit, elle a appris il y a 3 ans, en regardant un documentaire à la télévision, qu'elle faisait partie des enfants de la Creuse, quoi. Vous savez, il y a des choses qu'on... Ouais, oui, c'est incroyable,
L'État n'a pas eu d'obligation. Alors, j'imagine qu'apprendre ça brutalement par l'État, ça peut être aussi douloureux.
Mais voilà.
Alors, on peut laisser au hasard de la vie le fait que des gens n'apprennent jamais, éventuellement.
Oui. Tout à fait, parce que si vous voulez, en plus, il y a eu des changements d'identité, de lieu de naissance aussi. Voilà. Oui, et puis, alors, pour les femmes, en plus, il y a des personnes qui sont mariées, mais il y a eu des changements aussi de nom, d'identité, quoi. Alors, aussi bien, il peut y avoir des familles à La Réunion qui restent, qui savent que dans la fratrie, il manque un enfant, et qui vont se lancer dans des recherches sur les réseaux sociaux, hein, ça pourrait être assez facile aujourd'hui, mais qui vont pas retrouver la personne puisqu'il y a un changement de nom, quoi. Voilà.
Oui, il faudrait presque des détectives pour remonter tout de suite.
Oui.
Mais quand vous m'avez parlé au début de cette fédération d'enfants,
oui.
Ça concerne d'autres enfants que ceux de La Réunion, ça peut être...
Non. C'est vraiment uniquement sur les enfants dits de la Creuse. Et en général, les personnes concernées n'aiment pas qu'on dise de la Creuse, parce qu'en fait, ça a concerné cet exil forcé dans 80 départements, en fait. Hein. 84 départements, d'accord. Je crois. C'est pas du tout que la Creuse.
Oui. Ah oui, on pensait la Creuse, voilà. Et éventuellement le Limousin, mais en fait, c'est toute la France.
Non. Dans l'Hérault, dans le Gers, même en région parisienne. Vraiment dans plein de départements.
Et comment ça s'est, noué au départ quand vous avez appelé cette fédération? Alors j'imagine que vous avez eu un rendez-vous avec la présidente de la fédération et elle vous a mis rapidement en contact avec des enfants. Comment ça s'est fait, même en termes de feeling, en termes de sentiments?
Oui, il y a eu une première rencontre. Moi, je suis allée les rencontrer sur Paris lors d'une conférence organisée à Sciences Po Paris. Il y a une association, je crois, de personnes d'outre-mer, je crois, voilà. Et puis après, je suis allée directement sur Guéret, voilà, où là, où j'ai commencé à rencontrer des personnes, et puis j'ai photographié les lieux. Alors la Creuse, donc là, bah, j'avais idée forcément de montrer le contraste saisissant entre, par exemple, la campagne, en plus l'hiver, de la Creuse, et
Le
puis
climat
la
de la
nature
Réunion, oui.
luxuriante, voilà, la nature luxuriante, tout ça de la Réunion. Parce que j'ai beaucoup travaillé, comme vous avez vu, en diptyque, quoi. Bah, l'idée, c'était de travailler sur la mémoire, sur l'exil. Tout ça, c'est des phénomènes qui, a priori, enfin, des processus qui se voient pas. Donc, comment on exprime ça, comment, voilà,
Oui,
en
ça c'est bien.
photo. Donc, pour la plupart des personnes que j'ai photographiées réunionnaises, je les ai fait poser de manière assez classique, quoi. L'idée, c'était vraiment de leur symboliquement qui recouvre une forme de dignité, quoi. Puis bon, il y a des
Oui.
grands formats, c'est voilà, ils
Mais c'est,
prennent de l'importance,
je
quoi.
peux témoigner en tant que spectateur. Bon, il y a une photo particulièrement marquante où on voit, je crois, deux sœurs qui sont dans les bras l'une de l'autre. Je crois qu'on n'a même pas
Oui.
besoin de raconter l'histoire. En regardant la photo, on comprend que ce sont des sœurs et des retrouvailles, tellement l'image est
Voilà.
parlante, quoi.
Voilà. Plus de 50 ans, plus de 50 ans après, là, c'est les retrouvailles de Marlène et d'une de ses sœurs, quoi. Marlène, voilà. C'était la première fois qu'elle retournait en 2000, là, c'était en 2018, le moment de cette photo. Et c'est la première fois qu'elle retourne sur l'île de la Réunion, depuis son exil forcé, alors qu'elle avait 17 ans, quoi. Voilà.
Et alors, dans
Et
ce
donc,
cas précis,
elle retrouve sa sœur.
elle retrouve une sœur qui, elle, était restée à La Réunion depuis toujours. C'est
Oui,
ça? Est-ce que cette sœur avait une mémoire ou une connaissance, par exemple, qu'elle avait une sœur qui avait été enlevée et...
bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Marlène, après, elle s'était mariée, et puis elle n'a pas trouvé de. Enfin, voilà, elle a changé de nom, changé d'identité, donc. Et en fait, elle a retrouvé. Alors après, à la Réunion sur Saint-Denis, il y a une radio qui est très connue, qui s'appelle Radio Freedom,
Oui.
et qui est très très écoutée par les Réunionnais. Et il y a souvent des appels,
D'accord.
des appels de recherche, quoi, qui
De
sont à
témoignages qu'on peut
personne qui,
retrouver.
voilà, qui sont lancés, quoi. Et c'est en partie, je crois, dans ce cas précis, grâce à ça, que Marlène a pu retrouver, enfin, sa sœur, quoi. C'est sa sœur qui a appelé la radio en disant: oui, j'ai entendu le témoignage de Marlène, de ma sœur, voilà, j'habite à tel endroit, et
D'accord. Bon, c'est bien, là, les médias ont montré leur utilité.
voilà. Ah oui, non, mais c'est absolument incroyable, hein.
Mais vous, là, quand vous parlez de cette arrivée dans la Creuse, moi quand j'ai vu d'autres photos, voilà, bon, évidemment, je suis arrivé au conseil régional du Limousin en connaissant le thème. Alors,
Oui.
ça influence peut-être mon regard, mais je peux vous assurer que j'avais l'impression d'être dans une sorte de forme de recueillement, et en regardant les photos, je sentais un poids sur les visages, même quand il y a des sourires, etc. Je sentais une histoire forte et lourde, hein, sur les photos que vous avez prises, donc vous
Ouais,
avez
bien
fait vivre
sûr,
quelque
bien sûr.
chose. Vraiment.
Bien sûr. Moi, je leur ai demandé, quand ils posaient, de penser, quoi, à leur histoire, quoi. Avant, il y a toute une période, j'arrive pas chez les gens, parce que la plupart, en plus, il y a des liens d'affection, d'amitié qui se sont créés au fil du temps. Et avant tout, ils m'ont raconté leur histoire, quoi. Voilà, parce que moi, ça me touchait, ça m'intéressait. Et puis, voici une rencontre humaine, hein, je veux dire, que voilà.
Oui, ça
Et
a dû être parfois même difficile, j'imagine, de recevoir
oui,
toutes
bien
ces
sûr.
mémoires, tous ces témoignages.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien
Combien
sûr.
vous avez pris
Et
de photos, combien de portraits, ou combien de personnages, je veux dire, en tout cas?
oh, ben, là, pour des raisons d'espace technique, toutes les personnes n'ont pas pu être exposées, mais j'ai bien rencontré une trentaine de personnes, hein.
Oui. Alors, justement,
Mais
je rebondis un peu parce que j'en ai fait la remarque aux gens qui gèrent l'exposition et puis aux responsables de la région qui ont impulsé aussi ce projet,
ouais.
que pour moi, j'aurais aimé avoir plus de photos. Alors, ils m'ont indiqué qu'il y aurait sans doute des expositions à Bordeaux et à Poitiers, donc ça va
Oui.
bouger dans la région. Et puis qu'après, ils ont une démarche de, si possible, d'aller vers l'éducation nationale, peut-être pour exposer dans des lycées,
Ouais.
peut-être d'autres lieux. Comment vous voyez la suite, vous?
Bah écoutez, que ce soit oui, que ce soit diffusé le plus largement possible, quoi, via ces photos, via ces images, hein, que oui.
Est-ce qu'un livre, une
Oui.
édition peut-être pourrait être envisagée?
Aussi, c'est envisagé, voilà, on ne peut rien vous cacher.
Et comment ça s'est
C'est
déroulé
envisagé.
avec la région? Parce qu'au départ, donc, vous contactez cette fédération, vous rencontrez des... J'ai failli dire des survivants, excusez-moi, mais il y a peut-être
Non, mais
des
vous avez
auditeurs.
raison. Ah, vous avez raison.
Parce qu'il y a de quoi, effectivement, ne pas se relever.
Ouais.
Une fois que vous les avez rencontrés, alors déjà oui, alors excusez-moi, je fais un détour, mais est-ce qu'il y a eu des refus d'être pris en photo? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des réticences? Comment ça s'est passé
Non.
humainement? Non?
Non, il n'y a pas eu. Non.
D'accord.
Non, il n'y a pas eu. Non, non, non.
Et ensuite,
Non,
vous...
parce que c'est des personnes qui se sont manifestées encore une fois via cette association.
D'accord.
Et à ce moment-là, ça voulait dire que voilà, qu'ils voulaient être,
Volontaire,
enfin,
tout ça, oui.
voilà, identifiés, et que quelque part, enfin, ils savent bien qu'ils portent une histoire et qu'ils ont aussi un devoir de connaissance, de mémoire, voilà.
Et alors après, c'est vous qui avez contacté la région? Comment ça s'est passé?
Non, c'est eux qui m'ont contacté, en fait, voilà.
D'accord.
Parce que voilà, Nouvelle-Aquitaine, donc c'est la Creuse, c'est Guéret, et voilà, c'est le creuset, on va dire, de l'histoire, là où il y avait le fameux foyer de l'enfance à Guéret, où beaucoup beaucoup d'enfants réunionnais effectivement sont arrivés direct de d'Orly, et puis après où ils étaient envoyés, oui, dans des c'est ça dans des dans des dans des fermes, pour beaucoup pour les garçons, voilà. Ils étaient un peu traités comme des petits esclaves, hein, il faut bien dire les choses,
Oui,
voilà
l'esclavage des temps modernes, en quelque sorte, quoi.
voilà 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 sans compter évidemment qu'on leur avait promis, quand ils sont partis de la Réunion, qu'ils allaient faire des études. Alors évidemment, tout ça, c'est des vocations brisées, parce que pour les filles, elles se sont retrouvées à faire des arts ménagers, ou alors enseignement agricole. Bon,
Les quelques
ça
illusions
évidemment.
positives qui existaient sont vite tombées, quoi.
Ouais. Après, il y a aussi une photo de Jean-Lucien Héry, où on retrouve un garçon, où on voit avec qui a retrouvé son père biologique aussi à La Réunion, là, j'avais
Oui,
pu
je l'ai vu,
assister à
c'est très
ça.
beau cette histoire, ouais.
Bon, eh ben lui, ça c'est lui, il a eu des parents adoptifs qui ont été très très aimants et qui continuent à côtoyer. Ça s'est très bien passé, mais ces deux personnes qui sont vraiment, que j'ai rencontrées aussi, c'est vraiment deux personnes super, quoi, ont appris qu'ils n'avaient pas adopté ils pensaient avoir adopté un orphelin, en fait. Voilà,
D'accord.
ils ont
Ah
appris
oui,
qu'il y a.
aussi
Oui,
étaient
oui,
ignorants
oui.
de la
Mais bien
situation.
sûr, il y a vraiment des victimes.
Oui,
Enfin, voilà.
complexes et
Oui.
diverses. Est-ce que
Voilà.
vous avez eu contact avec des agriculteurs, justement, qui ont eu accueilli ces enfants et qui les ont fait travailler? Bon, là, j'imagine que le témoignage serait peut-être
Non.
plus compliqué à avoir.
Non, j'ai pas. Non. Non, ça non. Non. Non, j'ai pas eu, non, non, non. Non, parce que après, effectivement, il y a peut-être des personnes, des agriculteurs, qui ont accueilli ces enfants, qui savaient pas que voilà, qu'ils n'étaient pas orphelins, qu'ils avaient des parents, que bon. Mais après, voilà, il y a des histoires. Jean-Charles Cerdagne, qui a même écrit un livre d'ailleurs, et qui vit sur Limoges. Bon, il était vraiment traité, il dormait, je sais pas, dans l'écurie avec les moutons, on lui faisait manger, il raconte l'histoire, on lui faisait manger les crottes de enfin, on lui disait que c'était du chocolat, quoi, les crottes de je sais plus, de chèvre, de, enfin, vous voyez.
Oui, bon
Donc c'est des
après, il n'y a
trucs,
pas d'excuse qu'ils aient su l'origine de l'adoption
voilà
ou pas,
voilà voilà voilà
bien
voilà
sûr.
voilà 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 voilà
Vous
Et puis il y
étiez
a eu
quand
des
même
abus
très près.
sexuels aussi.
Pardon, excusez-moi, et abus
Il y a
sexuel.
eu des abus sexuels aussi sur des, voilà, sur
D'accord.
des garçons, des filles, voilà, de la part de familles
Oui, donc
adoptives.
ça veut dire que, à part quelques exceptions où ça s'est bien passé, c'est une mémoire très très lourde, quoi, vraiment.
Oui, c'est très très lourd au niveau aussi des foyers, donc de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, il y a tout un tas de responsabilités en chaîne qui, voilà.
Qu'est-ce que vous espérez maintenant, quelque part, du résultat de cette exposition? Enfin, je sais pas si résultat est le bon terme, mais.
Ah ben, moi, enfin, au début, là déjà, le fait que ces personnes soient reconnues, soient identifiées, soient respectées, à mon niveau de photographe artistique, c'est bien, quoi. Maintenant, effectivement, si ça peut tourner, voilà,
Et puis le
c'est
fait
encore
d'avoir fait
mieux,
des
quoi.
photos aussi belles, je vous le dis, hein, sans flagornerie, comme vous dites, parler de reconnaissance, ben là, l'image a vraiment son rôle parce que voilà,
Exactement,
ils sont
c'est vrai.
vivants encore, quoi, en plus, hein,
Ouais,
c'est important. Vous étiez
c'est.
présente à l'inauguration, parce que j'ai
Oui,
pu
bah bien
rencontrer
sûr.
François Hollande qui s'est
Oui.
déplacé, Alain Rousset, président de la région,
Oui, oui, oui.
et des Réunionnais concernés aussi.
Aussi, beaucoup, presque la plupart des personnes qui sont photographiées étaient là, quoi. Oui, non, mais c'était très, 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 très émouvant, quoi. Très émouvant. Et c'est vrai que pour eux, bah, le fait que François Hollande et puis Alain Rousset les honneurs de leur présence, bah, voilà,
C'est pas rien quand même.
super, quoi. Ça n'efface pas le passé, mais disons que voilà,
Ça aurait été encore mieux si ça avait
ça.
été le président en exercice, peut-être.
Oui, bon, bah, ça,
Bon, on verra, il y
oui.
aura peut-être une suite.
Oui, mais bon, c'est pas lui, c'est pas sous sa présidence que les choses se sont décantées, c'est sous la présidence effectivement de François Hollande avec sa ministre des Outre-mer, Erika Baretsch.
Qui aujourd'hui, je crois, maire de Saint-Denis de la Réunion, c'est ça?
Voilà,
C'est
voilà,
Erika.
voilà, voilà, voilà. C'est grâce à elle que
Il y a eu
le
cette montée.
dossier s'est ouvert et qu'il y a eu voilà un certain nombre de mesures, de démarches, voilà, faites pour essayer de réparer, quoi.
Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. J'imagine que les gens qui vont pouvoir regarder cette exposition, regarder ces visages, croiser ces regards, vous seront reconnaissants quelque part parce que c'est vraiment à la fois une nécessité de vérité. C'est très émouvant. Alors là, c'est exposé dans un conseil régional et on comprend la dimension symbolique, comme vous avez dit, de reconnaissance de la région, de l'État. On parle d'exposition peut-être dans des lycées. Est-ce que vous imagineriez, vous, des lieux qui vous, peut-être, vous plairaient encore plus ou vous imagineriez que ça serait même encore mieux? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées, peut-être, qui pourraient se faire jour? Aller à la Réunion avec les photos, par exemple, j'imagine.
Ah ben oui, ça c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Ça, ce sera effectivement envisageable, quoi, à Saint-Denis, quoi.
Oui.
Ouais, tout à
Est-ce
fait,
que vous
tout à fait.
savez s'il y a des... Alors, au-delà, vous avez parlé d'enfants qu'on retrouvait, par exemple, en papa biologique à La Réunion, mais est-ce que certains ont réussi ou ont souhaité retourner vivre à La Réunion?
Oui, bien sûr, bien
Oui,
sûr.
il y en a qui sont
Ah
partis.
oui, il y en a qui se sont installés, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, pour autant, les retrouvailles, moi je dirais que de manière générale, quand même, les retrouvailles avec la famille biologique sont compliquées. Ça, c'est, il faut pas, c'est pas, oui, c'est très très compliqué. Et pour être complètement honnête, c'est très rare quand ça se passe bien,
Il
voilà,
y a eu
parce qu'il y a
40 ans ou
souvent,
50 ans entre-temps, donc c'est énorme.
voilà. Et puis il y a beaucoup de culpabilité aussi de la part des personnes qui sont restées, soit des parents, s'ils sont encore là, de la famille, des cousins, des oncles, des tantes, voilà, d'avoir laissé partir en fait,
Oui.
d'avoir laissé partir les enfants,
Bien sûr.
voilà.
Alors, ce qui est très étonnant quand même, c'est moi je pensais que c'est. Alors, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, je pensais que ça se cantonnait aux années 60 et nous avait dit que ça continuait jusque dans les années 80. Donc, c'est
Oui.
proche de nous. Ça veut dire que
Oui.
Mitterrand était déjà arrivé au pouvoir, que ça a continué encore 2, 3 ans. C'est-à-dire que
Oui.
l'administration s'est aveuglée 20 ans de suite, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est assez
Après,
incroyable.
ce qui s'est passé au départ, ils ont exilé c'était des adolescents, des gens qui avaient 15, 14, 15, 16 ans. Et puis là, quand même, ils se sont rendus compte, et c'est remonté d'ailleurs jusqu'aux oreilles de Michel Debré, que les choses se passaient mal, fugue, suicide, révolte, enfin, ça se passait quand même très très mal une fois arrivé en métropole, placé dans les familles d'accueil ou dans les foyers. Donc après, beaucoup plus tard, ils ont exilé des enfants, des nourrissons, quoi, enfin des personnes, des enfants en bas âge, quoi, voilà.
Ils ont modifié les modalités, mais ils ne sont pas décidés
Oui.
d'arrêter, quoi.
Non, 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 parce qu'il y avait toujours des candidats en métropole, des personnes qui cherchaient de toute façon à adopter adopter des enfants, qui pouvaient pas avoir des couples, qui
Oui,
pouvaient
oui,
pas avoir de voilà.
la prise en compte des conséquences psychologiques n'était pas à l'ordre du jour, quoi.
Non, et là justement, ça fait partie des combats de la FED d'avoir une prise en charge psychologique. Alors, il y a des choses, hein, je crois que je vais pas raconter de bêtises là-dessus, faut pas. Mais bon, il y a quelque chose qui est
On attend
déjà
de voir
alloué
la
là, je crois.
responsable de cette fédération pour qu'elle nous en dise plus
Voilà,
sur le sujet.
voilà.
Alors, juste un dernier mot sur vous, puisque ben, moi, je découvre votre travail à l'occasion de cette exposition. Vous avez parlé de photographie, de documentaire. Est-ce qu'il y a un site, je ne sais pas, un Facebook, un endroit où on peut alors aller voir, même à distance, pour ceux qui ne seront pas proches de l'exposition, vos photos sur les
Ouais.
Réunionnais, mais peut-être d'autres travaux que vous avez réalisés. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot?
Il y a mon site personnel, corinnerosette.net, tout simplement.
Oui. Rosette avec un Z, hein, je précise.
Rosette, oui. J'ai beaucoup travaillé dernièrement, avant la pandémie. Je suis allée plusieurs fois en Chine pour documenter le développement du tourisme intérieur et notamment les pratiques de la plage.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'était avant que le virus n'arrive et puis surtout que le régime du président chinois actuel se montre aussi autoritaire et voilà, il commence à vraiment pas expulser, mais enfin c'est tout comme voilà,
Les
à
Occidentaux, les
limiter la
communistes.
liberté d'expression, expulser les journalistes, voilà.
Vous avez presque une prémonition qu'il allait se passer quelque chose.
Bah ouais, voilà, c'est bien triste tout ça, c'est vraiment
Et
très
ce
triste,
travail,
voilà.
si on souhaite le voir, ça va s'exprimer dans une exposition, dans un livre,
Sur
sur la plage, la Chine.
il y a déjà eu deux expositions, les Chinois à la plage, ça c'était en Normandie, il y a 2 ans, un festival, les femmes s'exposent à
Ah
Ouigat.
oui, Olga, ben je connais
Voilà.
très bien la personne qui dirige ça. Oui, ben, j'ai passé de longues vacances d'enfance à Olga, donc
Ah, d'accord,
bon, ben, c'est
d'accord.
magnifique, ça se rencontre. Mais dites-moi, est-ce que vous, il y aura peut-être encore une suite sur ce travail autour des enfants de la Creuse?
Ben,
Est-ce qu'il y a un autre terme? Est-ce qu'on peut trouver un autre terme pour les appeler est-ce qu'on continue à les appeler les enfants de la Creuse?
en fait, ils sont identifiés comme ça, quoi. Enfin,
Oui,
après, quand on
d'accord.
dit les enfants de la Creuse, les gens qui ont entendu un peu parler d'histoire, voilà. Tout de suite, ça fait tilt. Moi, j'ai appelé mon travail Mémoire d'enfance exilée, parce que c'est un travail
Oui,
sur
bien
la
sûr.
mémoire, voilà. Et bon.
Oui, alors il y a d'autres enfants exilés, d'autres provenances évidemment, mais c'est vrai que c'est peut-être plus juste. Et
Voilà.
est-ce que vous imaginez refaire quelque chose autour de ce thème? Qu'il y a des
Ben,
suites avec d'autres enfants?
je pense que là, bon, a priori, avec le soutien de la région Aquitaine, si l'exposition, enfin, vraiment devient itinérante, et puis s'il y a l'idée d'une édition photo, je vais sans doute faire d'autres portraits, quoi. Voilà.
Est-ce que vous seriez susceptible de participer à des rencontres avec des lycéens, par exemple, si jamais il y a ce type de choses qui se met en place? Je pensais entre autres au lycée agricole, mais pas que. Et peut-être que ce sera eux qui vont être peut-être le plus visés ou concernés au départ. Est-ce que vous verriez raconter à des élèves justement un petit peu votre expérience, votre démarche?
Pourquoi pas, pourquoi pas.
Vous aimez plus
On est
parler
en
par
rêve.
l'image.
Oui, très franchement, oui. Oui, puis après, moi, mon expérience, bon, c'est, j'ai envie de dire, c'est mon rôle de photographe, vous
Oui,
voyez, très
c'est pas le
franchement.
centre du sujet, je comprends.
Non, mais très franchement, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Comme disait, enfin, moi, je trouvais que la parole, je sais pas si c'est enregistré là ou pas, mais bon,
Oui,
bref.
oui.
Mais comme disait, Alain Rousset, le jour de l'inauguration, tout le monde, on le remerciait, puisque bah, c'est lui le président de région, donc c'est grâce à lui, voilà, qui a eu tout ça. Et que, bah, aujourd'hui, par exemple, vous m'appelez, voilà. Mais il disait, mais qu'est-ce que, à notre niveau, qu'est-ce que t'en dis, vu ce que vous avez vécu, qu'est-ce qu'on peut faire en plus, là, pour l'instant? Enfin, je veux dire, c'est pas, on peut faire des choses en plus, mais là, on est au degré zéro d'un début de réparation avec ça. C'est pas
Oui,
grand-chose,
pas
quoi,
mal
vous
marche,
voyez?
je me suis dit.
Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire la même chose, quoi. C'est, bon.
Oui, on m'a
En
parlé
tant que
de.
photographe, vous voyez, c'est bon.
Oui, vous avez fait votre rôle et c'est très bien
Voilà.
et c'est un très
Voilà.
beau résultat. Mais j'allais dire, même en termes esthétiques, ça peut-être paraître déplacé de le dire, mais les photos
Non, non,
sont
non, du
vraiment
tout.
très belles.
Ah ouais. C'est pas du tout déplacé parce que moi, j'ai fait ça, comme ça aussi parce que pour qu'on regarde, pour qu'on les voit, quoi, ces personnes.
Oui,
Voilà.
bien sûr.
Si.
Bon, je peux vous rassurer, le résultat est vraiment beau et touchant. Donc,
Merci beaucoup.
c'est moi qui vous remercie d'abord d'avoir fait ce travail, ensuite d'avoir bien accepté de répondre à nos interrogations. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses pour d'autres projets. Et on incite aussi les auditeurs à aller voir sur ce que vous avez dit, hein, le site Corinne Rosotte, pour ceux qui seront loin des lieux d'exposition. Et puis, bah écoutez, voilà. Merci pour ce travail et pour votre disponibilité.
Merci à vous, merci.
Troisième entretien concernant les enfants de la Creuse, Valérie Andanson, secrétaire nationale de la Fédération des enfants déracinés des territoires d'outre-mer. Et je vous avoue que lorsque je l'ai interviewée, je ne savais pas qu'elle était elle-même une de ces enfants déplacés, déracinés de la Creuse. J'ai essayé de contenir mon émotion quand je l'ai interrogée, mais elle ne cherche pas à pencher trop de ce côté-là, mais elle dit les choses avec beaucoup de subtilité et de fermeté en même temps. Valérie Andanson. Bonjour Madame Andanson.
Bonjour.
Je vous attrape au vol, si je puis dire.
C'est vrai, c'est vrai. Vous m'attrapez au vol.
Voilà, vous êtes en partance pour les États-Unis. C'est peut-être pour des raisons personnelles, je ne vais pas chercher de ce côté-là, mais vous avez un lien avec les antipodes, décidément, puisque c'est la Réunion qui nous réunit, c'est le cas de le dire. Car vous êtes, alors comme on dit, présidente responsable d'une fédération qui s'occupe de ces fameux enfants de la Creuse. Mais vous allez m'expliquer ça.
Oui, je suis secrétaire et chargée de communication de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Oui.
D'accord. Alors attendez, je déraciner, je comprends. Vous
Oui.
allez nous le préciser, mais des enfants d'outre-mer, ça veut dire que ça pourrait concerner d'autres régions que la Réunion?
Oui, parce qu'on sait qu'il y a des enfants dans d'autres départements, dans d'autres départements d'outre-mer, mais c'est vraiment la Réunion où il y a eu le plus d'enfants quand même, hein, puisqu'on
D'accord.
était 2015. Mais bon, il y en a en Guyane et en Martinique, mais très peu, très très peu.
D'accord. On va pas rappeler tout le contexte puisque je ne vous cache pas que j'ai interviewé Monsieur Gonin du Conseil régional. J'ai interviewé Corinne Rosod, donc la photographe qui a fait ces magnifiques photos pour l'exposition sur ces enfants de la Creuse. Vous me direz s'il y a des termes préférables. Mais déjà, je suis étonné de ce que vous me dites. Est-ce que les autres enfants des autres départements, même si c'est moins nombreux, ça concerne la même époque, les mêmes administrations?
Oui, ça concerne la même époque, mais surtout, je dirais que en Martinique, en Guadeloupe, c'est plus le BUMIDOM, le Bureau migratoire des DOM, qui concernait les adultes consentants. Et nous, dans notre histoire, c'est quand même des enfants de zéro, enfin de zéro, de bébés jusqu'aux adolescents. Et moi, je suis une enfant dite de la Creuse.
D'accord,
Et je dis bien dite de la Creuse.
de la Creuse. Et c'était déjà le Bumidome aussi pour la Creuse?
Alors, c'est-à-dire qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Donc, Michel Debré a mis en place le bureau migratoire de BUMIDOM. Et après, il s'est appuyé sur le BUMIDOM pour mettre en place comment dire, un dispositif qui va s'attaquer aux gosses. Voilà, mais il faut bien faire la différence entre le Bumidom et notre histoire d'enfant exilé. Hein.
D'accord.
On est alors, bien d'accord. Hein.
Vous avez prononcé un mot fort qui est attaqué, mais est-ce que vous pouvez... Je suis ému parce que je ne savais pas que vous étiez une enfant de la Creuse, comme on dit, concernée par ce sujet. Mais allez, on va essayer de parler avec du recul.
Oui.
Qu'est-ce qui a motivé Michel Debré, l'État, l'administration, parce que tout ça, c'est un système, à aller chercher des enfants à La Réunion? On sait que, comme le nom l'indique, de la Creuse, c'est un département qui est un peu creux, qui s'est dépeuplé, donc il manquait d'habitants. Mais pourquoi aller chercher des enfants à La Réunion? Il y avait des émeutes, il y avait des problèmes économiques. Qu'est-ce qui se passait à La Réunion à ce moment-là qui faisait qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas prendre des enfants à La Réunion? Est-ce qu'on le sait?
Ce qui se passait à La Réunion, en fin de compte, c'est un problème démographique. C'est-à-dire que il y avait une démographie galopante, et je pense aussi la peur d'une montée sociale, ces enfants qui allaient grandir et devenir, comment dire, des délinquants, trop de population à La Réunion. Donc, Michel Debré s'est dit, en fin de compte, on va prélever le maximum d'enfants de La Réunion pour les déplacer dans les départements ruraux de la métropole, mais pas uniquement la Creuse. Hein.
Je vous interromps, je reviens sur Michel Debré deux secondes. Il a été député de La Réunion, c'est ça?
Il était député de La Réunion, oui, oui, tout à fait. En 63.
Ou lorsqu'il était Premier ministre, ça s'est passé à...
Ça a commencé en 62. Ça a commencé en 62 et Michel Debré a été nommé député de La Réunion en 63. D'accord. Mais il a appuyé le dispositif. C'est vraiment lui qui a dit maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de population à La Réunion. Il faut trouver une solution. Et malheureusement, la solution qu'il a choisie n'était pas la bonne.
Alors, puisqu'on parle de solution, est-ce qu'on peut, entre guillemets, reconnaître que quand même, il y avait un vrai problème de surpopulation?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, en fin de compte, rien résolu. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est exactement la même chose.
Non, c'est vraiment juste histoire de comprendre ce contexte.
Oui.
Et est-ce qu'on sait, même si vous dites qu'il l'a amplifié, qui avait initié le processus avant lui? Est-ce qu'on a des recherches là-dessus ou...
Oui, c'est plus les experts de la Commission nationale qui ont fait ces recherches. C'est vrai qu'il y a eu un rapport final qui a été remis en 2018 à la ministre des Outre-mer. Il y a aussi un livre beaucoup plus synthétisé, c'est-à-dire qu'il fait quoi, 100 et quelques pages. C'est un livre qui s'appelle « Idées reçues sur les enfants de la Creuse qui se sont déplacés en métropole ». C'est vraiment le condensé de ce rapport final. Et il est très, très bien fait.
On peut se le procurer, ce livre ?
Oui, on peut se le procurer. Il y a la FNAC, Amazon, tout ça. C'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès. C'est vraiment, cette commission, ça a été une étude historique et sociologique. Donc, c'est vrai qu'on a le chiffre, 2015 enfants, oui. On a le contexte, et voilà quoi, mais il vaut mieux quand même. Oui. Comment ?
Ça a été vraiment étudié en profondeur. En fait.
Ah oui, deux ans d'études, et les experts ont fait un travail de fourmi, parce qu'ils ont quand même ouvert tous les dossiers, ils ont comptabilisé, il y a une liste qui existe, hein, de toutes les victimes.
D'accord. Parce que je demandais à Madame Rosotte, donc la photographe qui a œuvré, oui. Si on était sûr d'avoir retrouvé tous les enfants en question. Vous avez une liste, mais il y a peut-être des enfants et des familles adoptantes ou accueillantes, je ne sais pas comment il faut dire, qui n'ont peut-être jamais su.
C'est ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, sur les 2015 enfants, il y en a donc qui sont décédés, il y en a qui sont malades, il y en a qui ne veulent plus parler de cette histoire, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Surtout chez les enfants qui ont été adoptés.
Oui.
Parce qu'il faut savoir, par exemple, que dans mon cas, il y a une falsification d'état civil. C'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et mon lieu de naissance. Comment voulez-vous retrouver une personne?
Je suis désolé si je personnalise un petit peu. Vous l'avez su par vos parents adoptifs? Comment vous...
Non. Moi, mes parents adoptifs ne voulaient absolument pas que je sache ce qui s'était passé. Oui. C'est vraiment, je l'ai découvert par hasard à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que c'est un choc, hein. C'est un choc émotionnel intense, puisque...
Qu'est-ce qui a provoqué ce hasard? Enfin, en quoi consistait-il?
Ah ben, c'est surtout le fait que quand on est adopté, donc moi je suis partie à l'âge de 3 ans, oui. Je suis arrivée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans, et après j'étais adoptée à l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que quand on martèle dans la tête d'un enfant « je suis ta maman, je suis ton papa » et que la couleur de peau n'est pas du tout la même, on a des questions pendant des années, des questions. Oui. Mais bon, voilà. C'est... Mon histoire personnelle fait partie des 2015 parcours. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a quand même dans cette histoire...
Avec votre histoire à vous, forcément, il y a eu beaucoup de situations identiques.
Voilà, ce qu'il y a, c'est que je crois que peut-être que au départ c'était dans une belle bonne intention, je dirais, hein. Mm-hmm. Mais pourquoi pas sortir les enfants de la misère? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi, c'est-à-dire qu'on a quand même menti aux parents. On prend vos enfants, on les emmène en métropole pour un avenir meilleur. Oui. Ils reviendront tous les ans, et nous sommes partis pour un aller simple. Donc, c'est ça qui est grave.
Ils savaient quand même qu'ils partaient pour la métropole, mais ils imaginaient que c'était dans des conditions très favorables, très confortables, et
tout à fait.
Peut-être un avenir radieux, comme on dit.
Ouais, non, mais puis quand on voit dans le rapport final des experts de la Commission nationale, il y a quand même une part de responsabilité importante de la DAS, qui aujourd'hui, ça s'appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mais les dossiers, c'est catastrophique, ce qu'on
déjà,
peut trouver dans les dossiers.
Même s'il y avait des orphelins, et on verra que ce n'est pas le cas de tous,
oui.
Admettons leur trouver des familles, mais déjà simplement les faire partir de la Réunion, on est quand même ancré dans un paysage, on est quand même ancré dans un climat, on est quand même ancré dans des goûts, des saveurs, enfin, il y a un tas de choses qui nous constituent.
C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a été transférés comme des objets, loin de nos repères, loin de nos familles, loin de nos origines réunionnaises, de notre culture réunionnaise. Et franchement, c'est un vol d'enfant. C'est un vol d'enfant, oui. Puisque la plupart de nos parents étaient illettrés, on a fait des promesses aux parents, on a menti aux parents. Et comment se fait-il que dans certains dossiers d'adoption, il n'y a pas d'acte d'abandon? Comment se fait-il qu'il y a des falsifications d'état civil, comme le mien, par exemple?
Ça, c'est quand même pas l'ordre des ministères. Vous pensez que c'est la DAS qui, après, s'est débrouillée pour procéder de la sorte?
Oh, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'institutions concernées dans tout ça. Il n'y a pas... voilà. C'est une affaire d'État, c'est une affaire politique.
Oui.
Voilà. Donc,
ça paraît invraisemblable. Hein, parce qu'on se dit comment on a pu faire autant d'erreurs ou autant d'aveuglement sur... Alors certes, la psychologie de l'enfant n'avait peut-être pas autant de part à l'époque qu'aujourd'hui, mais enfin, c'est pas si vieux pour autant. Donc,
Voilà, nous sommes pas si vieux que ça. C'est ceux qui sont partis dans les années 80, ils ont quoi, 45 ans, donc c'était hier. Hein, il faut... Voilà.
Comment s'est constituée la fédération dont vous êtes secrétaire? Qu'est-ce qui a provoqué l'initiative? Est-ce que vous êtes là depuis le départ? Comment vous êtes réunis?
Oui, ben en fin de compte, moi quand j'étais à La Réunion, parce que je suis restée 40 ans dans la Creuse, après je suis partie m'installer à La Réunion.
Dans la Creuse en plus.
Oui. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit, il faut fédérer les associations pour aller plus loin, et parler d'une même voix et aller vraiment dans le même but. Et c'est en 2015 que la fédération a été créée. Et c'est vrai que depuis, je dirais que même depuis 2014, quand Erika Baretsch a porté la résolution à l'Assemblée nationale, oui. Une première porte s'est ouverte. Après, il y a eu donc la création de la FED. Après, il y a eu la commission nationale. Et on avance parce que c'est pas fini.
Oui.
C'est pas fini.
Bien sûr, c'est pas fini. Vous en êtes presque encore qu'à la première marche, finalement.
Oh là là là, on a bien avancé quand même. Hein.
Pardon.
Oui, on a bien avancé.
Juste une précision, vous avez dit que ça a fédéré. Il y avait déjà des associations, plusieurs qui œuvraient chacune de leur côté, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc là, la FED regroupe 4 associations, 2 en métropole et 2 à La Réunion.
D'accord.
Voilà.
Et vous avez dit que vous avez fait un retour à La Réunion, qui était un passage où vous êtes installé à La Réunion?
Ah, moi, je me suis installée pendant 9 ans à La Réunion. C'était vraiment dans le but de retrouver mes origines et de comprendre cette adoption. Et d'obtenir cet acte de naissance original.
Oui, c'était une nécessité.
C'était une nécessité parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas d'identité, comment on peut se construire et se reconstruire? Il faut quand même, pour avancer, il faut savoir d'où l'on vient et qui l'on est. Voilà, donc c'est important, c'est important.
Je ne voudrais pas être indiscret, mais comme votre parcours forcément a des points communs avec le parcours des autres, lorsque vous avez parlé de ce hasard qui vous a révélé finalement un questionnement qui était déjà là, comment votre famille adoptante a réagi? Est-ce qu'après, elle a pu comprendre votre recherche? Est-ce que ça a provoqué des tensions ou est-ce qu'au contraire, ils ont pu vous aider?
Alors, au départ, je dirais qu'ils m'ont aidé à retrouver mes frères et sœurs parce qu'on était quand même 6 à partir de la Réunion. Nous avons tous été séparés, arrivés dans la Creuse. C'est-à-dire que pendant des années, on se croisait dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs. Et quand j'ai appris ça, j'ai ressenti beaucoup de colère. Et ils m'ont quand même aidé à retrouver mes frères et sœurs. Mais je dirais que ma maman, qui était assez autoritaire, ne voulait absolument pas que je retourne vers mes origines. La
peur de vous perdre. Elle avait peur de vous perdre.
La peur de me perdre, par amour, je peux comprendre.
Bien sûr, bien sûr.
Mais on ne peut pas mentir à un enfant pendant tant d'années.
Et voilà. Excusez-moi de cette question, mais quand vous dites que vous croisiez vos frères et sœurs, c'était les croiser d'un trottoir à l'autre ou vous en avez peut-être même fréquenté sans savoir que c'était vos frères et sœurs?
Bah, je pense, parce que puisque sur les 6, les 3 premiers sont restés à l'ADA jusqu'à la majorité, avec interdiction de rencontrer les petites sœurs, hein, oui. C'est les services sociaux qui interdisaient, pour protéger, soi-disant, les petites sœurs, et les 3 dernières ont été adoptées par des familles différentes, bien sûr qu'on ne savait pas.
Mais quand vous dites qu'il y a aujourd'hui peut-être encore des enfants, d'anciens enfants qui ne savent pas. L'État, alors vous avez évoqué le fait qu'il peut y avoir des changements de nom, etc. Mais l'État n'a pas la possibilité de retrouver, d'avoir gardé des traces, des archives.
Il faut qu'on, oui, voilà, il y a une liste, il faut qu'on trouve une solution pour essayer d'approcher. Je ne sais pas, pourquoi pas, par exemple, via les médias, annoncer, voilà, il existe une histoire d'enfants réunionnais exilés. Oui. Si vous êtes né à La Réunion, si vous avez été adopté, posez-vous la question de savoir si oui ou non vous pourriez faire partie de cette histoire. Parce que
une grande émission de télévision spéciale.
Oui.
Je vais pas dire perdu de vue de l'époque, mais enfin quelque chose de.
Ah, voilà, quelque chose de fort, de quelque chose qui soit vraiment véhiculé par les médias, parce que c'est que comme ça, hein, qu'on arrive à le cas de Christine qui a su en 2020 qu'elle faisait partie des enfants de la Creuse, dite de la Creuse.
Ouais.
Oui, en 2020, début 2020, en décembre 2020, on fait une grande action à La Réunion. On est 70 à partir pour nous réconcilier avec La Réunion, avec les Réunionnais, avec nos familles. Et là, elle découvre que sa maman, voilà, qu'elle a une maman. C'est fou.
Elle faisait partie du voyage, elle allait à La Réunion sans savoir.
Elle savait, début 2020, elle découvre qu'elle fait partie du dispositif, sait qu'elle a une maman biologique.
Comment elle l'a découvert, justement? Par un média, par une émission, un reportage? Comment?
Ah ben ça a été un travail de recherche de la Fed, de recherche, voilà, avec comment dire, un généalogiste, oui. Voilà. Donc, ça a été tout un travail, mais bon, elle a retrouvé sa maman.
D'accord.
C'est vrai que, pour elle, ça a été un échec. Voilà, ça a été le rejet, hein, au mois de décembre, avec sa maman. Que moi, j'ai retrouvé mon papa biologique l'année dernière, en décembre 2020, 58 ans après. C'est tout récent et j'ai l'intention de retourner vivre à La Réunion au mois de septembre pour terminer le puzzle de ma vie.
Ça veut dire que ça s'est bien passé? Il vous a bien reçu, tout simplement?
Ça s'est bien passé, mais vous savez, c'est pour ça qu'il est important de mettre en place un dispositif psychologique. Parce que quand on vit pendant des années un exil aussi dur, parce qu'il y a eu des situations graves et inhumaines, hein, je dis bien,
oui.
dans certains parcours, hein. Quand on retourne vivre à La Réunion pour pour retrouver nos familles, il faut préparer les retrouvailles, que ça soit d'un côté ou de l'autre.
Oui,
parce que c'est fracassant.
Pour ces personnes.
C'est fracassant. C'est émouvant, je dirais. Mais c'est vrai que moi, j'ai retrouvé mon papa, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, mais il y a eu aussi... ça a été pas facile non plus pour lui, autant pour lui que pour moi.
Mais, oui.
Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il a été très, très franc et ça s'est bien passé. Voilà. Il a 8 enfants.
Incroyable.
Il a 8 enfants.
C'est un scénario presque improbable, quoi. C'est...
Voilà. 8 enfants, donc je vais aller voir ses frères et sœurs, découvrir ses frères et sœurs. Des nouveaux, en plus.
Donc, vous allez avoir une nouvelle tranche de vie réunionnaise.
Une nouvelle tranche de vie réunionnaise. Je verrai ce que ça va m'apporter. Et puis, voilà, je pense que c'est un besoin vital.
En tous les cas, ça dirige vos choix de vie, du coup.
Oui, ça dirige mes choix de vie. Et puis, bon, voilà. Moi, je suis sur le chemin de la résilience. Hein.
Oui.
Donc, ça va. Mais je peux vous dire que sur toutes les victimes qui sont au sein de la Fed, certains encore sont très 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 en colère, hein, et qui ne pourront pas passer au-delà de cette colère. Et c'est dommage parce que je crois qu'il faut qu'on avance différemment maintenant. Il faut passer au-delà de la colère, de la haine, et se réconcilier.
Oui.
C'est pour ça qu'on a l'intention dans toutes les actions qu'on va faire, c'est un lieu de ressources et de mémoire à guérir dans la crise.
Il y a un projet de mémorial, de lieu, de musée, quelle forme ça va prendre.
Alors, nous avons un projet c'est un projet qui fait partie des préconisations des experts de la Commission nationale.
Oui.
C'est un lieu de ressources et de mémoire vivant, je dis bien, vivant, à Guéret dans la Creuse.
D'accord, à Guéret, pas par hasard.
Ouais.
Parce qu'en même temps, il faut rappeler que les enfants ont été éparpillés partout.
Oui, donc il n'y a pas que la Creuse, hein. Il y a 84 départements en tout, hein. En Bretagne, en Lozère. À Pau.
Et ça deviendra le point de ralliement, on peut dire, en quelque sorte.
Oui, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut, qu'on arrête de stigmatiser la Creuse et il faut qu'on arrive à se réconcilier avec les Creusois.
Oui,
bon,
oui.
Autant qu'on se réconcilie avec les Réunionnais, mais il faut aussi se réconcilier avec les Creusois. Et voilà. Donc, nous, on est plus dans cette démarche-là. Mais on va quand même aller beaucoup plus loin puisqu'on a quand même une avocate.
Oui.
Du barreau de La Rochelle, on souhaite mettre en place une commission nationale définitive qui sera la suite de cette commission temporaire et qui va inclure le juridique et le psychologique.
Alors, le psychologique, je ne vais pas dire que je le comprends, mais on imagine. Oui. Le juridique peut consister en quoi? En des réparations?
Pas uniquement des réparations, une réparation financière, je pense qu'on ira, mais il n'y a pas que la réparation financière. La mémoire, c'est important.
Oui.
Que notre histoire se rentre dans les manuels scolaires, ça c'est quelque chose qui va se faire. Voilà, donc...
Dans la discussion que nous avons eue avec M. Gonin du Conseil Régional, donc il a évoqué la possibilité que l'exposition devienne itinérante.
Ça, c'est important.
À Poitiers et Bordeaux à minima, mais après, ça pourrait être dans des lycées, entre autres agricoles. Peut-être
d'autres
idées que vous allez soumettre aussi, je ne sais pas.
Oui, ben déjà, c'est vrai qu'on se déplace aussi dans les lycées et les collèges. Dernièrement, on était à Grenoble.
D'accord.
En faculté aussi, on a beaucoup d'élèves qui veulent faire leur thèse sur cette histoire, donc c'est bien.
Vous avez des demandes, en fait, qui vous sont adressées.
Tout à fait, nous avons des demandes. Et je crois que c'est, notre histoire, c'est une histoire transgénérationnelle, hein.
Oui.
C'est important pour nous que la jeunesse s'empare de ce pan d'histoire et transmette pour que plus jamais ça ne recommence, quoi.
Bien sûr. Et vous avez des demandes auxquelles vous répondez, mais est-ce qu'il arrive que ce soit vous qui soyez à l'initiative d'une demande d'intervention quelque part? Je pense peut-être entre autres aux établissements scolaires de la Creuse et des départements qui ont été le plus concernés quantitativement.
Non, ce sont les établissements scolaires qui demandent.
Qui demandent, d'accord. Il faut que
ça ou des élèves qui souhaitent faire leur thèse et qui se rapprochent de notre fédération pour... Voilà, non, c'est en général, ça se passe comme ça.
C'est au niveau de l'université plutôt, donc...
Oui, l'université. Il y a la Réunion aussi, on fait des interventions.
Bien sûr, oui.
C'est bien, c'est important.
Est-ce qu'on a une idée, parce que je vous avoue, à mon ignorance, je n'ai aucune idée du nombre d'habitants à La Réunion maintenant, et je n'ai aucune idée du nombre qu'il y avait dans les années 60. Est-ce que vous avez une idée? Parce que 2000 enfants, c'est étalé sur 20 ans.
Oui.
Ça paraît fou, mais on se rend pas compte, nous, des proportions aussi.
Ouais, non, mais là, de toute façon, ça n'a strictement rien résolu, puisque il y a à peu près plus de 800 habitants. Ils parlent même d'arriver jusqu'à 1 million d'habitants à un moment donné, donc d'accord, ça n'a strictement résolu. Je pense qu'il aurait mieux valu aider les familles sur place que d'arracher les enfants. Il faut se dire, quand même qu'on était considéré les sous-X, alors que c'était faux.
Monsieur Gonin m'a parlé d'aide au, non pas au retour, mais d'aide au billet d'avion.
Oui, donc en 2017, Erika Baretsch, qui était ministre des Outre-mer, a décidé d'aider les enfants dits de la Creuse en mettant en place un dispositif de retour sur l'île. Donc on a un droit à un billet d'avion tous les 3 ans avec une bourse d'hébergement, mais c'est pas suffisant.
D'accord. Non, mais alors,
c'est pas suffisant.
Pardon de vous dire ça, je suis content quand même parce que moi j'avais cru comprendre que c'était un seul billet aller-retour pour y retourner une fois. C'est quand même déjà un peu.
Non. C'est tous les 3 ans pour le moment, hein. Mais le seul problème, c'est que on vieillit et que beaucoup d'enfants, d'ex-mineurs, sont malades. Donc, certains souhaiteraient y aller beaucoup plus souvent, au moins une fois par an. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse établir des liens, renouer des liens avec nos familles? Voilà, donc. Il y a des.
Est-ce qu'il y a un certain nombre, comme vous, sont retournés s'y installer définitivement ou ont le projet peut-être de le faire?
Ah, il y en a qui se sont installés définitivement. Peu quand même, hein, peu. Oui. Et il y en a qui ont le projet d'y aller, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Hein.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le billet d'avion, il faut pouvoir vivre sur place après.
Et oui, l'installation ne se fait pas comme ça, hein, donc. Voilà, je pense qu'il faudrait, ça serait aussi une sorte de réparation, permettre aux victimes de pouvoir retourner s'installer. À ceux qui le souhaitent, bien sûr.
Est-ce que l'exposition, les photos elles-mêmes, l'expression de ces visages que moi j'ai trouvé très beaux et les photos extrêmement réussies, est-ce que vous savez, chez vous-même, en tant que spectatrice de ces photos, chez les membres de votre fédération, comment ça a été perçu? Est-ce que l'exposition leur fait plaisir? Est-ce que ça commence à alléger un petit peu les choses? Est-ce qu'il y avait du monde à l'inauguration? Enfin voilà, j'aimerais savoir un petit peu sur le rôle. Est-ce que cette exposition est importante finalement?
L'exposition a été très importante et l'inauguration a été une réussite. Tout le monde a adoré. En plus, Corinne a fait un travail extraordinaire. C'est vrai que nos expressions transpirent nos mots MAUX, nos émotions, et c'est bien, c'est magnifique. Et puis en plus, c'est au-delà de la photographe professionnelle, elle est devenue une amie, donc ça fait longtemps qu'elle est, quelques années qu'elle est avec nous. Et qu'elle nous soutient. C'est magnifique.
Elle a passé du temps, qu'elle a dû écouter beaucoup les gens parler, qu'elle a réussi à capter l'expression, à trouver le moment, enfin, tout ce qui peut faire que ça transpire dans l'image, parce que c'est pas simple. Enfin, moi, j'étais très étonné de ça. On a l'impression que même si on connaissait pas d'histoire, elle nous parvient. C'est très fort.
Ah oui, on ressent bien l'émotion, hein, au travers de ces photos. Et puis, on a été reçus par le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Vraiment, on a aimé son discours, comme on a aimé le discours aussi de François Hollande.
Pour l'Aquitaine et François Hollande, donc ex-président.
Tout à fait. Donc, je pense que nous avons là deux bons soutiens et nous allons pouvoir avancer sur le plan de la mémoire. Et après, je vais quand même vous annoncer aussi une grande nouvelle, c'est que nous sommes invités. La FED a été choisie parmi deux associations donc pour représenter la France sur le plan européen, à Berne, en Suisse, au mois de septembre. La date est calée.
Expliquez-moi, représenter sur le plan européen, mais dans quel contexte?
Dans quel contexte? Alors, le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs pays européens qui ont subi ce transfert d'enfants.
D'accord.
Donc, nous allons nous associer et nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire pour avancer, non seulement parce que nous sommes l'exemple même de ce qui ne doit pas se faire.
Oui.
Nous sommes une mémoire vive, nous tâchons, de l'histoire de France. Donc, on va voir comment on peut ouvrir le combat sur le droit de l'enfant aujourd'hui et demain.
Je vais faire non pas un pas de côté, mais étendre un petit peu le sujet. Monsieur Gonin m'avait dit qu'il y avait des leçons à tirer, par exemple, en ce qui concerne les mineurs isolés, les familles d'accueil, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet de fond sur l'adoption? Parce que, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enfants qui sont en orphelinat ou en institution français et qui ont du mal à être adoptés et qu'on fait appel, si je puis employer ce terme, à des familles à l'étranger, à des enfants peut-être pas exactement dans les mêmes situations, mais on imagine qu'il y a des parcours de misère, de pauvreté. Est-ce que vous, votre fédération, vous avez une position par rapport à ces adoptions du bout du monde? Est-ce qu'il ne faut pas tirer une sonnette d'alarme? Il y a eu quelques scandales parfois dans les médias, mais de façon globale, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur ce sujet-là qui est quand même peut-être un problème, hein?
Bien sûr qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, bien sûr qu'il y a des réflexions à faire, non seulement sur les adoptions, sur les placements aussi aujourd'hui des enfants. Il faut améliorer tout ça et nous allons y travailler sur le plan européen. Il faut, voilà, c'est important, c'est important.
Et les autres pays donc qui seront concernés, c'est pas exactement les mêmes situations, puisque la Réunion était, alors je sais pas si on disait département ou territoire d'outre-mer à l'époque, mais est-ce que c'est des pays parce qu'ils avaient d'autres régions comme nous, ou c'était leurs anciennes colonies? Est-ce qu'on peut savoir un peu les circonstances?
Vous savez, il y a la Suisse, il y a la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne. Bon, même si c'est pas...
Oui, ça paraît tout dans l'Irlande et la Suisse, enfin... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de territoire d'outre-mer, mais...
Oui, mais même si c'est pas un territoire d'outre-mer, même si c'est d'un pays à un autre, oui, c'est quand même un exil d'enfants.
C'est arrivé chez eux, oui, c'est ça.
Voilà, c'est arrivé chez eux, exactement comme nous avons subi ce transfert, cette transplantation. Mmh. Donc, on va travailler là-dessus, ça c'est sûr. Il faut qu'on avance.
Une question sur votre fédération, donc vous en êtes secrétaire. Elle se situe où géographiquement? Est-ce qu'il y a un point de rattachement? Alors Guéret ou pas Guéret, je ne sais pas. Je voulais un mot justement parce que je ne sais pas si vous avez déjà choisi où sera l'endroit à Guéret, s'il y a déjà un bâtiment qui a été sélectionné ou qui sera construit. Est-ce que vous avez un endroit où vous vous retrouvez entre vous, je ne sais pas, chaque année, tous les deux ans? Comment vous arrivez à vous contacter, à vous voir, etc.?
Tous les ans, on se déplace dans un département concerné par l'exil. Donc l'année dernière, c'était la Réunion, puisque nous voulions vraiment aller dans cette réconciliation. Voilà. Et cette année, ce sera à Pau. C'est prévu donc le 28 août à Pau. Et là, la fédération Santé sociale est à Cavaillon pour le moment, mais nous allons décider à la prochaine AG pour qu'elle soit... pour que le siège soit dans notre lieu de ressources, à Guéret.
D'accord. Et alors donc, je réitère ma question sur le lieu. Il y a déjà un plan architectural, il y a quelque chose qui est établi?
Tout à fait. Donc, nous allons travailler avec la Fédération des œuvres laïques de Guéret, oui, avec Madame la maire de Guéret, enfin, avec les institutions concernées. Il y a un bâtiment qui va être rénové et il y aura une extension pour la fédération. Voilà. Donc le plan est fait, oui. Le chiffrage est fait. Donc on attend maintenant les subventions.
Eh oui, il faut les sous, comme on
dit. il faut les sous. Et si tout va bien, si on arrive à lancer le projet assez rapidement, bien sûr, là en ce moment c'est des élections, donc c'est la période un peu compliquée. Si on arrive à mettre en place tout ça, on pourrait faire une inauguration fin 2023.
Absolument que nous, petits médias de province, on soit associés à ça, parce que nous sommes des départements, comme vous le dites, il y en a 80 sur 90. On n'est pas très loin de la Creuse, donc il faut que ça se sache à ce moment-là, évidemment.
Ouais. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir un lieu de mémoire à La Réunion, à Saint-Denis. Madame Erika Baretsch, qui est maire de Saint-Denis, s'est engagée publiquement pour mettre en place aussi un lieu de mémoire à La Réunion.
Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on peut voir que votre fédération fait beaucoup de choses.
Exactement. Sans compter qu'il va y avoir une commémoration à Orly, sous peu. Voilà, donc commémoration en présence du ministre des Outre-mer et de Monsieur Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de l'enfance.
Juste un dernier point, vous aviez évoqué, et puis les autres intervenants aussi, que beaucoup des enfants de la Creuse ont été placés dans des fermes, ont travaillé dans l'agriculture à de très jeunes âges et parfois dans des conditions extrêmement pénibles. Et est-ce qu'on sait après, statistiquement, dans leur vie professionnelle, vers quelle filière ils ont pu se diriger? Est-ce qu'ils ont pu s'épanouir? Est-ce qu'il y en a qui ont pu s'élever socialement? Est-ce qu'on a peut-être des retours quand même là-dessus? C'est un peu
bon,
compliqué, parce qu'on peut pas mettre tout le monde
experts,
des mais bon.
Les experts de la Commission nationale ont tenté de faire une étude là-dessus. Ça n'a pas marché. Oui. C'est pas facile, hein, comment voulez-vous? C'est vrai qu'il y a beaucoup de, surtout chez les adolescents qui sont allés dans les fermes où ils ont servi de main-d'œuvre gratuite, n'ont pas fait d'études, donc n'ont pas un niveau de...
Bien sûr, ils n'ont pas eu accès aux études supérieures.
Voilà, voilà. Il y en a qui... Oui, bien sûr, attends, on va dire qu'il y en a qui ont réussi, ça c'est certain. Moi, je dirais que j'ai réussi, mais à quel prix?
Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ou qu'est-ce que vous faites encore d'ailleurs?
Alors, moi, je suis rentrée dans la fonction publique en 91, donc assistante de direction, et puis voilà, je suis une jeune retraitée depuis 2014. Pour vraiment, je suis une militante maintenant pour cette cause qui me tient à cœur et puis surtout, voilà, qu'on puisse changer un peu ce système de.
Je vais avoir une idée, je ne sais pas si elle est saugrenue, mais puisque vous dites maintenant être une jeune retraitée, que vous allez sans doute vous installer à La Réunion, est-ce que ça ne serait pas peut-être une idée sympathique, alors peut-être pas qu'avec les Creusois, avec d'autres, mais. D'organiser des voyages entre la Creuse et la Réunion pour des Creusois qui ne sont pas d'origine réunionnaise, mais qui auront envie peut-être de faire le chemin dans le sens inverse.
Oui, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a, il y a plein de possibilités. Donc, on va travailler tout ça. Et je sais que je vais à la Réunion et je vais aussi m'investir là-bas pour faire bouger les choses. Parce qu'il faut savoir quand même qu'à la Réunion, les Réunionnais, il y a beaucoup, beaucoup de déni de culpabilité. Il faut qu'on arrive à passer au-delà de tout ça. Parce que nous avons besoin de nos familles réunionnaises pour avancer, pour nous construire, pour nous reconstruire.
Bon, merci infiniment, Madame Andanson, de nous avoir répondu, d'avoir dit les choses avec autant de clarté et de force.
Merci pour votre soutien, c'est important.